Bruno du Kremlin Bicêtre. J'écoute votre émission sur l'étalement urbain et je trouve simplement dommage que vous ne fassiez pas appel à des architectes pour aussi parler d'étalement urbain. Alors je vous propose pas de faire venir des stars parce que je pense que ça ne réglera pas le problème de l'étalement urbain, mais peut-être des architectes du quotidien qui sont beaucoup plus confrontés à tous ces problèmes de gens qui ont des préférences qui sont difficilement conciliables avec l'écologie. Voilà.
Bonjour, c'est Christian en Sud-Gironde. Je souhaite annoncer pour le samedi 30 avril à Bordeaux un grand meeting régional Aquitaine à l'Athénée municipal place Saint-Christoli. Non aux nouvelles lignes LGV Bordeaux-Toulouse-Bayonne. Oui à la rénovation des lignes existantes. Le projet GPSO serait dramatique en termes d'environnement, de besoins réels des populations, de dépenses infligées aux collectivités locales. Meeting à 14h30, donc à l'Athénée municipale de Bordeaux, samedi 30 avril. Merci, à bientôt.
Françoise de Mérignac, je voulais dire la joie que j'ai eue ce matin à sauver une petite race d'oiseaux que je ne vois pas souvent. Il s'était assommé contre la vitre, je l'ai tenu 10 minutes dans les mains et il est reparti. Quelle joie, merci.
Oui, bonjour, Bastien de l'Ariège. Ça commence à être lourd, tous les auditeurs qui insultent et qui dénigrent les agriculteurs de notre pays. C'est vraiment pénible, pénible. Je suis moi-même agriculteur, j'adore votre émission, mais j'en ai ras le bol d'entendre tous ces auditeurs.
Bonjour l'équipe, c'est Suzy de l'association Vivre en Transition à Fécamp. Nous organisons ce vendredi 29 avril une table ronde face au défi environnemental, comment agir sur notre territoire. Donc, on espère voir nombreux les habitants de l'agglomération pour échanger autour de comment on peut agir chez nous. C'est au cinéma Grand Large, à Fécamp, à 19h30. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Philippe, j'habite en Isère, j'ai 61 ans bientôt. Ma question elle est simple, c'est un problème qu'il faudrait soulever assez rapidement parce qu'il me semble que les gens se rendent pas compte de ça. Mais moi j'ai vu le climat s'effondrer sur les 50 dernières années, hein, parce que je me souviens bien que c'était pas pareil quand j'étais petit, vraiment pas pareil, surtout là où j'habite. Et je m'étais posé une question de comment les paysans ou la paysannerie d'une façon générale, qu'elle soit industrielle ou individuelle, va pouvoir continuer à nourrir l'humanité s'il y a plus de saisons. Que chaque culture est hachée de grêle, de, je sais pas moi, de chute de température précoce. Dans quelle mesure on va pouvoir maintenir l'agriculture pour nourrir tout le monde alors que le climat ne permettra plus de culture dite saisonnière vu que les saisons, eh ben rien qu'ici déjà, il y en a bientôt plus. Allez, réfléchissez-y et puis à bientôt.
Merci pour vos messages. Et puis, Philippe de l'Isère, vous qui posiez cette question sur les conséquences des changements de saison sur l'agriculture, ben ça tombe bien parce qu'on demandera justement au biologiste Marc-André Sellos ce qu'il en pense dans quelques minutes puisqu'il est avec nous cet après-midi. En attendant, avant de partir en vacances ou en week-end, laissez-nous vos messages sur le répondeur 01 56 40 45 45. Au sommaire de ce club de la Terre au carré, nous irons au pied d'un chêne qui est la star d'un film qui sort mercredi sur les écrans. Nous replongerons dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles pour vous révéler les secrets de la nature. Et puis on écoutera une chanson qui met en lumière les arbres remarquables. Nos invités pour en parler avec nous en studio, le réalisateur Michel Sédoux, le biologiste Marc-André Sellos et le chanteur Thomas Fetterman. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et en duplex des studios de France Bleu Occitanie à Toulouse, les docteurs en éthologie Anne-Cécile Daguef et Agatha Liévin Bazin, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
On se retrouve dans un instant pour un premier tour de table et bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Le journal des bonnes nouvelles et des curiosités du vendredi aux alentours de 14h25 si on est à l'heure.
Avec la mélodie des poissons, un piège pour Folon, il est sexuel ce piège. Mmh. Et puis des jeunes qui vont user leurs souliers 3000 km à pied pour faire émerger l'écologie dans les débats politiques.
Et bien voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Colin Gruel et Emma Bouvier. Et c'est Raphaël Rousseau qui est à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
On va commencer avec un premier tour de table. Michel Sédoux, vous réalisez donc avec Laurent Charbonnier ce film Le Chêne et ses habitants. Le pari, c'est de nous faire vivre pendant 1h17, très exactement, avec toutes les espèces qui cohabitent autour de cet arbre multicentenaire. C'est vraiment la star de votre récit. Quel âge il a et où est-ce qu'il se trouve exactement ce chêne?
Il est né en 1810.
Donc il a déjà vécu un petit peu et il est en fait à 10 km du château de Chambord.
Ouais, donc en Sologne, dans un cadre absolument merveilleux, et c'est vraiment la vedette de ce film, Marc-André Sellos, derrière un arbre, et c'est ce qu'on découvre. Il y a toute une communauté qu'on a tendance à oublier, tout simplement parce qu'on la voit pas souvent. Hein.
Alors, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on voit pas. Il y a des mousses sur les troncs, il y a des oiseaux, il y a des champignons sur les racines. Et c'est vrai que l'arbre, il est énorme. Ouais. Et c'est autant d'opportunités d'interaction pour tout un tas de choses plus petites qui gravitent autour.
D'arbres, il sera également question avec vous, Thomas Fetterman. Vous êtes le chanteur du groupe La Caravane Passe. Et avec le groupe Trio, vous sortez cette chanson « Droit comme un arbre ». Et l'idée, c'est de soutenir Tonton Fetterman, en l'occurrence.
Oui, c'est ça. En fait, avec son association Arbre, ils ont proclamé dans une salle de l'Assemblée nationale la déclaration des droits de l'arbre.
Ouais.
Et donc ils avaient besoin d'un hymne pour ça, et donc Tonton a fait appel à son neveu.
Tonton Georges, c'est terminé. On en reparlera avec vous. Et puis on parlera également de ce livre Alice au pays des sciences que vous publiez, donc Anne-Cécile Daguef et Agatha Liévin-Bazin. En vous emparant d'Alice au pays des merveilles, qu'est-ce que vous avez eu envie de proposer au lecteur, Anne-Cécile Daguef?
En fait, on va faire une découverte un peu de tout ce qu'on trouve dans Alice au pays des merveilles. Donc on va des champignons qui font changer de taille en passant par les insectes, on va parler de morses et d'huîtres, enfin voilà. On parle de beaucoup de sujets qui sont dans le livre d'Alice au pays des merveilles.
Voilà, et Agatha Liévin-Bazin, vous signez les illustrations du livre, un peu à la façon des planches illustrées des livres de science d'ailleurs. Hein.
Alors j'ai essayé un petit peu de reprendre, oui, les dessins à la plume de Téniel, le premier illustrateur, mais bien sûr avec bien moins de précision et de détails. Mais voilà, c'était un peu un hommage à ce style-là du 19e siècle.
Et ils sont très réussis, vos dessins, Agatha Liévin-Bazin. On se retrouve tous dans un instant et vous répondrez aux auditeurs et aux auditrices qui nous rejoignent avec toutes les questions sur l'ensemble de ces sujets, sur la page de La Terre au Carré, sur les comptes de l'émission, sur les réseaux sociaux et l'appli France Inter.
J'aimerais bien que ça s'arrête. J'ai besoin de faire la fête. J'ai trop d'anglais dans la fenêtre.
S'appelle Jacques, ça se voit sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Nous sommes sous l'orage pour commencer ce club de la Terre au Carré. Ce film, Le Chêne et ses habitants, sélection officielle au 72e Festival de Berlin. Michel Sédoux, vous en êtes l'auteur, le producteur, le co-réalisateur. Et Marc-André Sellos, eh bien, en tant que professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous avez aussi participé à travers un podcast, c'est ça, hein?
Oui, et puis je faisais partie de la flopée de conseillers scientifiques du Muséum, ouais, qui ont accompagné la scénarisation.
Michel Sédoux, alors on aura bien du mal à passer des extraits dans cette émission parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de voix off, il n'y a que les sons de la nature. C'était un choix que vous avez fait.
Proposition de promenade, oui, c'était un choix parce que je pense que les voix off en général dans les documentaires, nous sommes partis dans un autre genre que le documentaire, plutôt un film de fiction inspiré de faits réels, il vous guide. Et moi, je pense que ce qu'il faut pour découvrir la forêt, c'est de ne pas avoir de guide, c'est d'être seul. Et les sons sont suffisamment éloquents, ils parlent suffisamment pour vous permettre de tout comprendre. Et aujourd'hui, les avant-premières qu'on a vues, on a l'impression que de 3 ans à je ne sais quel âge, tout le monde comprend son histoire.
Comment on a cette idée folle de vouloir faire un film, vraiment un conte, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, autour d'un arbre?
Celui qui a eu l'idée folle, c'est Laurent Charbonnier, mon complice associé et ami, qui avait fait préparer un dossier quand je l'ai rencontré en 2017, une espèce de catalogue exhaustif de tout ce qui vivait dans un arbre. Et c'est son côté naturaliste. Et il a rencontré quelqu'un qui aime le cinéma et qui aime le cinéma qui raconte des histoires. Donc je lui ai dit, c'est une vraie bonne idée, mais il faut qu'on raconte une histoire pour que les gens aient envie de participer, de se promener avec nous dans cet arbre et rencontrent des personnages qui sont extraordinaires et qui sont souvent pas connus, parce qu'on connaît mieux souvent les magnifiques animaux exotiques que ceux qui habitent à côté de chez nous.
Et alors, raconter une histoire sans dialogue, vous qui avez produit il y a maintenant quelques années, mais par exemple Cyrano de Bergerac, on va dire c'est le top du dialogue jusqu'à zéro dialogue, c'est quelle différence et quelle difficulté?
C'est pour faire sans dialogue, il faut que les acteurs soient très bons. Et nous avons choisi des très bons acteurs.
Ah, vous avez bien casté, hein.
Oui, et puis d'avoir beaucoup de temps.
Mais comment vous avez choisi, par exemple, ce chêne-là?
C'est d'abord grâce aux scientifiques qui nous ont apporté un petit peu tout gravité autour du fruit du chêne, qui est le gland. Et donc, on raconte l'histoire de ce gland, finalement.
Ouais. Et c'est l'autre star du film, hein, c'est vrai.
C'est le vrai sens du film, c'est le miracle de la naissance d'un arbre. Et donc, ce gland... Et moi, j'avais souvent vu qu'il était, quand j'en ramassais un par terre, il avait des petits trous. Mais je connaissais pas le balana des chênes, le charançon qui le fort,
avec sa longue trompe,
qui le fort et qui pond dedans et qui va faire. Bon, donc ça, je l'ai découvert et donc c'est grâce aux scientifiques qui nous ont amené ça. Bon, évidemment, on avait envie d'avoir des transporteurs, les geais et les écureuils qui transportent les glands et les perdent quelque part. De temps en temps, ils les retrouvent pour les manger pendant la saison hivernale. Et puis, nous, on avait aussi envie de raconter, grâce à nos expériences d'aujourd'hui, ce qui se passait un peu dessous.
Ouais.
Donc il nous fallait les habitants souterrains, les mulots, et en même temps ils avaient un autre avantage, les mulots c'est qu'ils sont nocturnes. Donc ils nous permettaient aussi de raconter la vie nocturne. Donc voilà, le casting on l'a fait avec eux, et puis après on a écrit l'histoire. C'est le contraire d'une histoire normale, d'abord on fait le scénario et après on fait le casting, nous on l'a fait à l'envers.
Et donc quand vous avez pitché le film, vous avez dit je vais vous raconter une histoire de gland, et ça a marché.
Vous
avez réussi à convaincre avec ça.
Mais vous n'avez pas appelé le film Le Gland.
Non, mais quand je pitchais le film, les gens disaient c'est une histoire d'un gland qui réussit.
Et alors, quelle réaction?
Écoutez, ils rigolaient beaucoup.
Ouais.
Et ça leur donnait envie de savoir plus.
Bon, Marc-André Sellos, est-ce qu'on est capable d'estimer le nombre d'espèces qu'il y a autour d'un seul arbre, comme un chêne, par exemple? Parce que vous dites que Michel Sédoux, vous avez fait la liste, hein, mais ça représente quoi, en fait?
Moi, je connais plusieurs centaines d'espèces d'insectes qui vivent dedans.
Rien que les insectes.
Ouais. Je connais, pour chaque chêne que j'observe, je sais que sur les racines, il y a des champignons qui sont associés aux racines et qui les aident à exploiter le sol, comme la truffe, par exemple. Je sais que sur un chêne, vous avez entre 100 et 200 espèces de champignons. Et tout le reste. En fait, comment les glands réussissent dans la vie? Oui, en s'appuyant sur les autres. Et il y a tout un réseau d'interactions, il n'y a pas que les maladies qu'on trouve. Évidemment, il y a des insectes qui, effectivement, font des trous dans les glands, il y en a qui mangent les feuilles, il y a des champignons qui tuent les arbres. Mais il y a aussi, au jour le jour, dans la vie qui réussit, le fait de s'appuyer sur autrui pour vivre, ces champignons pour manger, ou même pour se reproduire. Vous savez qu'après la dernière glaciation, les chênes sont remontés vers le nord, au fur et à mesure que le climat redevenait favorable, ils ont avancé de 500 mètres par an. Alors, pas avec leurs pieds, hein, mais c'est simplement que les geais, on les voit dans le film d'ailleurs, c'est absolument superbe.
Dissémine, en fait, ça dissémine.
Ils planquent des glands pour les manger, et puis, bien qu'ils aient de bonne mémoire, il arrive qu'ils meurent avant d'aller les manger. Et les geais font que les chênes ne sont pas des espèces immobiles.
Michel Sédou, combien de temps vous êtes installé au pied de cet arbre pour le filmer? Et qu'est-ce que ça représente comme difficulté lorsqu'on veut filmer comme ça des animaux? Parce que ça, c'est un vrai travail très spécifique dans le monde du documentaire en particulier, même si là, on parle d'un film. Hein. Je sais que vous y tenez.
Mais je vous remercie. Non, c'est la patience. C'est-à-dire que le plus beau cadeau qu'on a pu se faire au film, c'est le temps. Donc,
non, mais c'est un vrai casse-tête de filmer un rapace, un écureuil, des
mulots.
Quand
vous avez la chance d'avoir Laurent Charbonnier, qui est un super patient et un grand naturaliste français, et il sait poser ses caméras aux bons endroits et il sait attendre. Donc c'est l'observation. D'abord, c'est beaucoup d'observations. Il y a beaucoup de plans qu'avec les jumelles. Et grâce à ces observations, après, on pose des caméras. Et puis, quand on fait de l'interaction, on essaie de travailler à plusieurs caméras. Et on essaie d'être très patient, puisque le film, entre le moment où on l'a commencé et le moment où on l'a livré, c'est passé presque 5 ans.
Vous avez tourné combien de temps? Et surtout, est-ce que vous avez pu être gêné? Vous disiez, c'est en Sologne, juste à côté du château de Chambord, terrain très connu aussi pour la chasse. Est-ce que vous avez pu être gêné par ce genre d'événement?
Pas du tout, parce que on a eu la chance quand on a repéré l'arbre, c'était la voisine de chez Laurent. On a été le voir et on a loué l'arbre entre guillemets, et on a loué un périmètre de sécurité autour de l'arbre pour être tranquille. Et puis on a eu un phénomène extraordinaire, c'est que pendant le tournage, on a eu premier confinement. Celui qui était le plus inquiétant, le plus angoissant, le plus stressant.
Donc idéal pour vous, par contre.
Mais on ne savait pas, parce que nous, on était prêts à tourner, on devait y aller, on avait plein de programmes, et puis on est resté chez nous. Mais Laurent, il habite à moins d'un
kilomètre. Ah, donc il a tourné tout seul.
Mais il partait, et puis vous imaginez un arbre, tout tranquille, sans bûcherons qui font du bruit autour. Donc les animaux sont intervenus, plus un avion qui traverse le ciel. Donc ça a été formidable, et on a eu 2 mois de cohabitation très apaisée entre Laurent et l'arbre. Ils étaient tous les deux seuls, donc... Une grande histoire d'amour est née entre eux, je pense.
Voilà. On dirait pas comme ça, mais c'est un extrait du film qu'on entend sous votre voix. Hein. Ce sont des oiseaux, extrait du film, des mésanges bleus en particulier. Alors, il y a cette scène absolument incroyable d'un rapace qui s'appelle l'autour.
L'autour des palombes,
que je ne connaissais pas de nom en tous les cas, et qu'on voit vraiment tracé pour suivre un oiseau. Comment vous tournez une scène comme ça alors? Parce que je crois que vous aviez donné un nom à cette scène particulière.
Le nom de code, parce que ça nous a mis plus de 15 jours à la tournée. Le nom de code, c'était Top Gun. Ouais. Donc, parce que l'autour des palombes est plus fréquent, il attaque plutôt les pigeons, normalement, mais il attaque aussi des geysers, il ne trouve pas de pigeons. Et comme les pigeons sont des migrateurs, il peut y avoir des moments où il y a moins de pigeons disponibles pour le nourrir. Donc, ça a été tourné l'un après l'autre, parce que si on devait tourner le geyser et l'autour en même temps, je pense que la fin n'aurait pas été celle qu'on voulait.
Donc ça, c'est la liberté du cinéma.
La liberté du cinéma, c'est de raconter une histoire et d'émerveiller pour apprendre, comme on dit au Muséum de Sciences Naturelles.
On est dans une période où il semble y avoir de plus en plus de films, qu'on va dire, naturalistes au cinéma. Marc-André Sellos, vous qui êtes scientifique, est-ce que vous pensez que finalement c'est évidemment une aide pour vous, scientifiques, qui parfois avez du mal à faire sortir vos spécialités, vos disciplines de vos laboratoires, et de sensibiliser les gens?
Mais c'est une aide pour nous, citoyens. Les scientifiques, ils s'en foutent qu'on sache.
Mais vous y participez, donc j'imagine que c'est important.
Mais oui, mais effectivement, ce qui est vraiment, c'est important en fait pour tout le monde, c'est qu'effectivement, c'est un des moyens de pousser les gens à recréer un lien avec la logique naturelle dont ils sont, qu'ils observent plus, même s'ils vivent à la campagne des fois. Et effectivement, vous citiez émerveillé pour. Il y a cette formule de Buffon, hein, il faut agir sur l'âme et toucher le cœur en parlant l'esprit. Les gens, ils s'intéresseront pas aux choses s'ils les ont pas vues, si elles les ont pas émues. Ça, c'est un motif qu'au muséum, on essaie de cultiver. Il y a en ce moment une exposition, l'Odyssée sensorielle, où d'ailleurs on passe dans la canopée d'un arbre tropical, on s'enterre dans le sol, où il y a que du son, de l'odeur et de l'image. Parce que c'est un des premiers rapports à l'objet avant de se questionner sur, en fait, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment je peux le protéger? Est-ce que c'est intéressant de le protéger? Et moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait tous ces médias qui permettent ensuite de raconter une histoire.
Jacques Tassin, qui est chercheur et qui a participé aussi au film, parle d'écologie sonore, hein, Michel Sédou. Mais c'est bien ça, c'est vraiment ce travail sur le son aussi. Hein.
C'est un voyage sensoriel, oui, c'est un voyage sensoriel. C'est une promenade extraordinaire qu'on nous propose. Voilà. Et pour répondre à la question tout à l'heure, le temps de tournage, 14 mois. Le temps de montage, uniquement image, 46 semaines. Donc c'est des
46
temps, c'est des temps qui n'ont rien à voir avec le cinéma normal. Ouais. Et c'est ça la chance de ce film.
Beaucoup plus long, donc vous voulez.
Oui,
vous
c'est dire, très, hein. C'est beaucoup de patience, beaucoup d'attente, parce que pour ramener ces images et pour les avoir et que ça soit naturel, que ça ait l'impression que ça soit tout simple à côté de chez nous, c'est beaucoup de patience.
Et les acteurs, ils sont moins pénibles?
Bah écoutez, ils sont. Oui, mais j'aurais dû être là avec nous, on pourra en parler.
Non, c'est ça.
Allez, le son, c'est aussi la musique qui a son rôle, évidemment, dans ce film. Et il y a la chanson du film qui est signée Team Up. On en écoute un petit extrait.
Tu relis comme un cercle de tes bois, terre à ciel. Et tu donnes à la lune des allures de chapelle. Tu as vu ce qui dure, ce qui est, ce qui passe. Les craquements, les fêlures. La vie sous la surface, où s'éclairent les abris silencieux de l'automne.
La voix de Team Dub, donc, qui a signé la chanson du film. Et beaucoup de choses sort, hein, évidemment, autour de ce film qui sera donc sur les écrans mercredi. Michel Sédoux, il y a toute une action aussi autour de la sensibilisation, justement, des plus jeunes à la forêt.
On a commencé par distribuer avec notre partenaire Belin un kit pédagogique à toutes les écoles primaires de France. 46 000 kits ont été distribués. On continue avec un travail avec l'ONF sur une sensibilisation à la forêt, donc des ateliers particuliers dans différents endroits de France. On a fait des podcasts formidables, merci Marc-André.
Dont l'un avec Marc-André, dans
c'est vrai. J'ai très très réussi.
Donc il y a tout ce qu'il faut.
Tout est en accès gratuit. C'est très important. C'est-à-dire qu'on a essayé que tout ce qu'on proposait, malheureusement le cinéma il faut payer son ticket, mais tout le reste, on peut le télécharger, on peut l'utiliser, et ça c'est formidable.
Et donc le film sort mercredi, Le Chêne et ses habitants, et Marc-André Sélos, je rappelle que vous êtes l'auteur de Chroniques de la Terre au Carré, et qu'elles ont été publiées aux éditions Actes Sud, et vous y parlez justement des arbres.
Des arbres, oui. Mais est-ce que
ce colosse au pied d'argile.
Tout le matériel pour creuser, il est disponible.
Allez, on se retrouve dans un instant et on reparlera de l'arbre avec vous tout à l'heure, Thomas Fetterman, et d'arbres remarquables en particulier. Il y aura une battle de chansons.
L'arbre, hein, il a la côte quand même. Hein.
Parce que vous aussi, vous avez fait votre chanson, et on l'écoutera tout à l'heure.
France Inter. La Terre au carré.
Les bonnes nouvelles du vendredi et un tour donc des curiosités de la planète, Camille Cronier.
Et est-ce que vous êtes prêt à avoir une chanson toute la journée dans la tête?
Ah oui,
c'est
allez.
Parti.
On déambule, on fait des bulles sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan, ne me remerciez pas, pour vous parler du projet absolument brillant de plusieurs scientifiques. Créer une bibliothèque audio là qui regroupe tous les sons sous-marins qui existent, parce qu'il s'en passe des choses. Alors ça, par exemple, c'est un poisson grand tambour, mais il y a aussi la petite baleine de mink ou le son des langoustes. Tiens, est-ce que vous avez déjà entendu le son des langoustes sous l'eau? Voilà ce que ça donne.
Pas mal. Hein.
Allez, un dernier toujours chez les crustacés. Ça, c'est une menthe de mer, c'est une sorte de grosse crevette qui signale un intrus. Je me suis un petit peu amusée à piocher dans les différentes banques de sons qui existent déjà et que le projet donc veut regrouper pour à terme mieux inventorier, comprendre les dialectes géographiques, parce que oui, ça existe. Voir aussi par exemple comment les chants des baleines évoluent. Utiliser également l'intelligence artificielle pour identifier certains sons et bien sûr documenter au maximum avant que ce fantastique paysage sonore ne disparaisse à cause des altérations humaines. Sur les 250 000 espèces marines connues, pour l'instant on estime que 126 espèces de mammifères, 100 d'invertébrés et 1000 de poissons produisent des sons. En voilà un autre, mais qu'on aime un peu moins, je crois. Voilà, c'est le son du frelon asiatique au milieu des abeilles. Terreur des ruches, ce frelon, entre autres. Hein, vous savez que Vespa velutina est une espèce invasive et pas facile de lutter contre. Mais on a peut-être enfin une solution, un piège sexuel que le spécialiste de la bestiole, Éric Darouzet, chercheur CNRS à l'Université de Tours, a mis au point avec des collègues chinois. Ils ont identifié la composition de la phéromone sexuelle produite par les femelles qui attire les mâles.
Par exemple, sur le campus universitaire de Tours, dans la forêt ou à côté des bâtiments, il n'y a pas de frelons autour de nous. On dépose notre mélange de la phéromone sexuelle sur un bout de papier posé au sol, et en quelques minutes, on a des mâles qui arrivent. Donc on a montré que la gyne, c'est-à-dire la reproductrice, la future reine, va attirer les mâles pour l'accouplement via la phéromone sexuelle. Et l'idée qu'on a, nous, maintenant, c'est de piéger ces mâles en quantité pour, j'allais dire, limiter les accouplements. Une future reine va avoir plus de difficultés à s'accoupler. Et si elle s'accouple pas, la passe spermatozoïde, elle pourra pas créer de colonie l'année suivante. Et le deuxième effet, en diminuant la population de mâles dans l'environnement, si la femelle n'a pas trop le choix, finalement, elle trouve un mâle et finalement, elle va s'en contenter. Et si ce mâle, c'est un de ses frères, par exemple, on va stimuler le phénomène de consanguinité qu'on a mis en évidence il y a 6 ans maintenant. Et si cette femelle s'accouple avec un frère, Elle va produire une descendance, donc elle va créer une colonie, mais sa descendance sera stérile.
Voilà, alors maintenant il faut tester les pièges et ensuite pouvoir les installer partout sur le terrain, donc il faudra des moyens, ce qui fait que c'est pas encore gagné. Aux États-Unis, les grands moyens cette fois, à la rescousse du loup que l'administration Trump avait autorisé à chasser il y a un an, et ça avait été un carnage, hein. 200 loups par exemple tués en 3 jours dans le Wisconsin. L'administration Biden vient d'interdire cette chasse, le loup gris est désormais protégé dans la majorité des États. Chez nous en Ariège, c'est aux arbres que certains s'en étaient pris l'an dernier, des centaines de chênes d'épicéas volés à leur propriétaire dans le village de Perles et Castellet, comme Hélène Rameil.
35 chênes centenaires, c'était un havre de paix et un petit paradis. Et il n'y a plus rien, c'est un massacre à la tronçonneuse.
Alors le patron de l'entreprise espagnole derrière ce massacre, hein, ils étaient venus, les bûcherons, ils avaient tout rasé, était poursuivi pour vol avec dégradation et destruction. Il a été mardi, condamné à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis et 2 amendes, 40 000 euros à titre personnel et 100 000 euros pour son entreprise. Donc je me suis dit, bonne nouvelle pour les plaignants, dont Hélène Rameil. Trop soulagée, non ?
Bon, on est un petit peu abasourdi de ce qui nous tombe sur la tête. Hein.
Alors, c'est raté. En fait, la condamnation n'est pas du tout suffisante, selon eux.
On s'attendait à ce qu'il soit condamné plus sévèrement, qu'il soit surtout interdit de revenir en France pour continuer ces massacres. Et puis, on voulait être indemnisé à hauteur de notre préjudice.
Parce qu'ils n'ont absolument rien touché depuis un an. Donc les parcelles sont toujours complètement détruites. Et en attendant que l'affaire se résolve, ils ne peuvent rien en faire. Le bûcheron a fait appel en plus, mais eux ne comptent pas se laisser faire.
Ah non, on ne va pas baisser les bras, nous on ira jusqu'au bout. Hein.
En espérant donc une vraie bonne nouvelle la prochaine fois. De l'espoir encore avec le début d'un Tour de France un peu spécial ce dimanche, le 20 février. 3000 km à pied, ça use les souliers, je le disais, mais c'est pour essayer de faire bouger les choses. Des jeunes veulent se faire entendre en pleine campagne présidentielle puis législative. Ils lancent donc le Relais Jeunes, opération apartisane, je le précise. Et Lou Garcia, 25 ans, sera de la partie.
Si on marche pendant 3 mois et demi, c'est parce qu'on marche pour notre avenir. L'idée, c'est de dire que cette jeunesse-là, qui a envie de défendre des valeurs autour de l'environnement, la justice sociale et la démocratie, on a une voix et on veut et on va être entendu si on se mobilise et qu'on fait front ensemble. Il y a un ras-le-bol, c'est complètement aberrant qu'avec les enjeux climatiques auxquels on fait face, auxquels l'humanité fait face, il y a un traitement aussi moindre de ces enjeux-là à l'occasion des élections présidentielles qui sont quand même des élections déterminantes en France. Donc on invite tous les jeunes à venir nous rejoindre, et les moins jeunes d'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde.
Départ dimanche donc de Paris, direction Rouen pour la première étape, puis après il y aura des étapes tous les 3 jours dans 20 villes partout en France. Ils vont vraiment faire le tour avec des ateliers, des rencontres. Retour prévu le 10 juin, donc si vous voulez vous joindre au convoi pédestre, les informations sont sur le site Relais Jeunes, au pluriel, relaisjeunes.fr. Je précise que les vélos sont autorisés aussi. Voilà.
C'est plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Le journal de Camille Cronier du vendredi. Marc-André Sellos, il y avait cette question d'auditeur tout à l'heure dans le répondeur. Philippe, donc, dans l'Isère, qui se demandait comment les agriculteurs vont pouvoir nourrir les populations si le cycle des saisons disparaît, ce qu'on observe dans beaucoup de régions. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Il y a toujours des saisons. Simplement, la tendance, c'est qu'on a un climat de type méditerranéen, très sec en été, avec beaucoup de pluies automnales et printanières, qui remontent vers le Nord, pour faire simple. Et il y a 2 grandes perspectives d'espoir. La première, c'est de changer de pratique agricole, de changer d'espèce. Par exemple, vous voyez, le maïs dans le bassin aquitain, je ne suis pas sûr que ce sera longtemps jouable, et de prendre des espèces qu'on cultivait plus au sud. Et la deuxième chose, il faut croire dans la sélection variétale, la capacité des généticiens, en s'appuyant sur les semences paysannes, qui sont un énorme stock de diversité, à produire des variétés adaptées à un nouveau climat.
Donc vous dites qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter, il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire.
Il faut s'inquiéter pour le climat, là, c'est sûr. Mais il faut s'inquiéter aussi pour la question qui est soulevée. Mais il y a des pistes de solutions. Mais la vraie question qui est derrière, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de réchauffer le climat?
Allez, dans un instant, Alice au Pays des Sciences, c'est le deuxième sujet de ce club.
Sur France Inter, une rediffusion de La Terre au Carré. You'll be
Aldous Harding, c'était Lone.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Je consens à vous donner un renseignement. Un côté vous fera devenir plus grande.
Un côté de quoi ?
L'autre côté, au contraire, vous fera rapetisser.
Mais l'autre côté de quoi ?
Du champignon, pauvre sotte !
Un des côtés devrait me faire grandir. Mais lequel des deux ? Après tout ce qui s'est passé, je ne sais si c'est prudent. Oh, nous verrons. Je commence à en avoir assez d'être une naine.
Alice au pays des merveilles, version Walt Disney. Tiens, Michel Sédoux, petite colle. Hein. Vous vous souvenez de l'année de la sortie du film ou pas ?
Ouh là là.
1951.
Oui, j'allais dire 50, ouais. Mais bon.
Voilà, c'était l'un des... C'était pas le premier d'ailleurs, il y en a eu avant. Et on parle d'Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il y a un ouvrage qui sort chez Belin, Alice au Pays des Sciences, avec nos invités qui sont duplex de France Bleu Occitanie à Toulouse, Anne-Cécile Daguef et Agatha Liévin-Bazin. Vous êtes toutes les deux docteurs en éthologie, c'est-à-dire que vous intéressez au comportement des animaux. Anne-Cécile Daguef, vous êtes médiatrice scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, et Agatha Liévin-Bazin, vulgarisatrice scientifique. Vous avez donc signé les illustrations du livre, on le disait tout à l'heure. Comment vous êtes rencontrées toutes les deux ?
Eh bien, on a eu la chance de se rencontrer dans un lieu très toulousain qui s'appelle Le Récafé, qui est un café scientifique où il était question de rencontres autour d'animaux mal aimés. Donc moi, je parlais de corbeaux parce que c'est un peu mon dada, si je puis dire. Et puis ça a très vite collé parce qu'on était toutes les deux issues du milieu académique. On était très portées par la médiation des sciences et on avait les mêmes sources, les mêmes envies de pop culture. Donc ça s'est fait comme ça.
Et Anne-Cécile, vous avez eu l'idée d'utiliser les grands classiques des films d'animation des studios Disney justement pour parler de zoologie et de botanique, c'est ça hein ?
Oui, c'est ça, parce que un peu comme Alice, je suis toujours très 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 curieuse. Et depuis toute petite, quand je regarde les films, je me pose des questions en me disant « Mais est-ce que ça marcherait comme ça dans la nature ? Comment ça se passe en vrai ?» Voilà, d'où l'idée de réutiliser les classiques Disney pour expliquer un petit peu comment ça se passe dans le monde naturel. Si on enlève la magie, qu'est-ce qui reste ?
Et alors pourquoi avoir commencé par Alice au Pays des Merveilles et pas Blanche-Neige par exemple ?
Alors, en fait, pour être honnête, au départ, au niveau de nos conférences, on avait commencé avec le Roi Lion.
Ah, oui, c'est vrai aussi.
Et en fait, on avait fait Alice en conférence, et en fait, d'un point de vue purement et strictement pratique, c'est que les ouvrages de Lewis Carroll sont dans le domaine public, alors que les films de Walt Disney sont soumis à des copyrights divers et variés.
Donc c'est beaucoup mieux pour les éditeurs, ça coûte
tout
rien.
Tout à fait.
Hein, c'est ça. Alors le livre bien antérieur évidemment à Walt Disney, puisque le livre, les deux opus hein, sont sortis à partir de 1865. Agatha Liévin-Bazin, Lewis Carroll, faut le rappeler quand même, c'était un prof de maths à la base, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Charles Ludwig Dodgson, de son vrai nom, c'est un mathématicien qui enseignait à l'université Christchurch d'Oxford. Et c'est assez rigolo parce que c'est un monsieur qui, dans sa vraie vie, était passionné de culture. Il allait au théâtre très souvent. Mais c'était un monsieur qui, dans sa vraie vie, était typiquement victorien, un homme de son époque, qui pouvait paraître un peu austère et qui... Dans sa vie privée, adorait les jeux de mots, faisait dès sa jeunesse avec ses frères et sœurs, il faisait des journaux, des jeux de mots, des choses comme ça. Et puis voilà, au contact des enfants, et notamment les petites Liddell, qui étaient les enfants du doyen de l'université avec qui il s'était noué d'affection, il pouvait inventer des histoires colorées et complètement... débridé.
Alors, faut rappeler qu'il était contemporain de Darwin, hein, qui avait publié L'origine des espèces donc très peu d'années plus tôt. C'est donc une époque effectivement très importante pour les sciences naturelles. Agatha Liévin-Bazin, est-ce qu'on peut considérer Alice au Pays des Merveilles comme un vrai conte naturaliste parlant d'écologie ou pas ?
Alors nous, c'est ce qu'on a voulu y voir, mais je pense très honnêtement que Lewis Carroll, lui, avait vraiment... Après, c'est un ouvrage très de son temps. Hein. Je pense qu'on peut pas nier que voilà, il y a certaines choses qui apparaissent dans son ouvrage qui sont très imprégnées de ce que lui avait observé à son époque autour de lui, de ses contemporains. Mais je pense que lui, c'était vraiment juste du fun, en fait. C'est vraiment une histoire qu'il a créée comme ça pendant une après-midi hein, pour distraire les enfants qui l'accompagnaient. Donc nous, on a trouvé que c'était un très bon terreau pour parler de toutes ces questions-là. Je suis pas certaine que lui l'avait pensé comme ça au moment de l'écriture.
Et alors, il y a des incohérences, j'imagine, dans les rencontres, par exemple, d'animaux, etc.
Finalement, oui, il y a quelques animaux exotiques. Mais finalement, il y a quand même pas mal d'animaux. Par exemple, il y a toute une scène au bord de mer où il y a des espèces qu'on trouve en Europe, hein, des homards, des méduses, des phoques. On a aussi le dodo qui est mauricien et qui est quand même plus éloigné de l'Angleterre victorienne. Mais oui, je pense que c'est un beau mélange d'animaux locaux et de ce qu'ils pouvaient voir dans les musées d'à côté.
Ah ben tiens, un petit extrait du dodo justement dans Alice au Pays des Merveilles.
Oh là là !
Un monstre dodo dans ma jolie maison !
Encore ce dodo ?
Ma pauvre petite
maison ! Non, allons du calme, ce n'est peut-être pas aussi grave que ça. Et vous nous affoler !
Petit bois de chaume, mais mignon petit mur, le voilà.
Mille tonnerres ! C'est tout de même assez inattendu, n'est-ce pas ?
J'ai vu quelque chose !
Mais entendu, c'est une situation extraordinaire.
Mais quoi ?
Je connais un moyen de tout arranger.
Oh, Dieu soit loué !
Quel moyen ?
Il n'y a qu'à le faire sortir par la cheminée.
Oh, oui, c'est ça, faites-le sortir.
Dis-moi ! Alors, ne dites pas de sottise.
Voilà, le dodo, Agatha Liévin-Bazin. Il paraît que vous adorez cet animal, pourquoi ?
Bah, j'aime beaucoup le dodo parce que souvent on le prend quand même pour bêta, parce qu'il a cette allure un peu grassouillet, un petit peu maladroit. Alors qu'au final c'est un animal dont on sait peu de choses, puisqu'il a disparu sans doute 100 ans après que les Européens l'aient décrit pour la première fois. Donc on a fait beaucoup de projections sur lui, mais sans en savoir beaucoup. Et puis c'est quand même devenu, alors c'est un peu triste de le rappeler, mais un symbole des espèces qui ont été un petit peu... fauché par les activités humaines. Donc je trouve que c'est un beau symbole, et puis c'est un animal sympathique qui a bien traversé les années, qu'on trouve dans plein d'œuvres de pop culture aujourd'hui. Donc,
Lewis Carroll, il s'intéressait à votre avis justement à la disparition des espèces ou pas ?
Alors, il faut dire qu'à l'époque de Lewis Carroll, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Hein. L'Empire britannique était en pleine expansion, notamment autour des îles de l'île Maurice. Il y a le dodo qui a disparu, mais il y avait aussi le solitaire. Il y avait aussi des espèces de tortues géantes à La Réunion, à l'île Maurice, à l'île de Rodrigue à côté, qui ont été fauchées à la même période. L'hippotrague, le couaga, qui était d'ailleurs très à la mode, une sous-espèce du zèbre. Qui était très prisé par les Anglais victoriens. Donc c'était déjà d'actualité, finalement.
Ouais. Marc-André Sellos, vous avez publié une tribune dans Le Monde récemment sur le Covid, justement en faisant allusion à Alice au Pays des Merveilles, puisque vous titrez face au SARS-CoV-2 « Courons plus vite que la Reine Rouge » de Lewis Carroll. Donc c'est vraiment pour vous, là, ce livre.
Oui, effectivement, la Reine Rouge a inspiré un évolutionniste, Van Valen, qui explique que pour s'adapter, pour survivre, il faut s'adapter à ces parasites. Et donc, même quand l'environnement ne change pas, il faut évoluer pour s'adapter aux parasites qui, eux, évoluent. Et du coup, il faut courir pour... vous voyez la course-poursuite qu'on fait en ce moment derrière le SARS-CoV-2.
Oui, donc c'est vraiment les microbes et...
Alors même que le paysage physico-chimique ne change pas. Donc, et Van Valen, il a appelé ça le modèle de la Reine Rouge, parce que dans de l'autre côté du miroir, il y a un passage où la Reine Rouge prend la main d'Alice, elle lui dit de courir à toute vitesse, et elle court, et plus elle court, moins le paysage bouge.
Ouais.
C'est un peu paradoxal, mais c'est ce qui nous arrive avec le...
Anne-Cécile Daguef, c'est justement ce qui vous a plu aussi dans cette histoire. Hein.
Oui, on ne pouvait pas écrire un livre sur Alice sans parler de la théorie de la Reine Rouge. C'était pas possible parce que c'était... Enfin, on l'étudie en biologie et c'était vraiment tiré du roman. Donc du coup, on a fait tout un chapitre pour expliquer un peu la Reine Rouge. Alors, on n'a pas trop parlé de parasites, je l'ai un peu mentionné, mais comme nous, on fait du comportement animal, on a un peu plus parlé de tout ce qui est en fait coévolution entre une plante et son pollinisateur. Où là aussi, les espèces vont évoluer ensemble, ou alors un petit peu dans ce qui se passe dans le conflit sexuel, où chaque partenaire essaye de maximiser sa descendance, donc on a aussi un petit peu de coévolution entre elles.
Oui, mais c'est du sérieux quand même. On voit que d'Alice au Pays des Merveilles, vous passez quand même à de la vraie bonne matière scientifique. Il y a une autre histoire qui vous intéresse beaucoup, c'est celle du chat.
Vous avez perdu quelque chose ?
Oh non, pas du tout. Je me posais seulement une question.
Oh, ça n'a aucune importance. Oh, un petit moment. Oh. Second couplet. Fleur d'argent, les rhododendrons, j'irai et j'y gamblerai dans les vagues.
Mais vous êtes un chat ?
Voilà, ça plaît beaucoup à Michel Sédoux, ça. Vous vous souvenez de l'image de ce chat, hein?
Oui, que... très bien, mais c'est très, très nostalgique.
C'est vrai?
Je sais pas pourquoi, ça a le côté nostalgique.
Ah, ça allume une petite...
petite chose de nostalgie, oui.
Avec le sourire du chat, quand même, Agatha Liévin-Bazin, c'était ça dans l'histoire aussi, ce qui vous intéressait?
Oui, le chat de Cheshire, on le reconnaît tous à son sourire et au fait qu'il disparaisse dans les bois comme ça sans prévenir. C'était l'occasion surtout de détricoter certaines notions au niveau de l'anthropomorphisme, parce que c'est vrai que certains autres animaux non humains peuvent sourire, mais leur sourire n'a pas du tout la même signification que le nôtre. Et c'était important de rappeler que, notamment par exemple chez les chimpanzés, il y a deux types de sourires, dont un où on voit toutes les dents de l'animal, et souvent ça c'est un signe de stress très important, c'est vraiment un signal d'apaisement quand il y a un conflit, et c'est aussi le cas chez les chiens, et rien que ça, sur les gifs internet, il y en a des centaines avec des chiens qui où il y a marqué merci avec le chien qui sourit, et ça c'est pas du tout non plus un signal positif, donc je trouvais ça important voilà, de rappeler deux trois choses sur le sourire qui n'est pas partout le même.
Thomas Fetterman, ça vous donne envie de relire ou de revoir Alice au Pays des Merveilles, version scientifique du coup?
Ouais, c'est vrai que ça fait envie. Après, j'ai pas mal le livre en tête, surtout de Lewis Carroll, le dessin animé bien sûr. En tout cas, sa bande son. Mais oui, ça, c'est sûr que ça fait envie. C'est une bonne idée.
Avec donc des illustrations signées par Agatha Liévin-Bazin et ce livre que vous publiez donc chez Belin, Anne-Cécile Daguef, Alice au pays des sciences. Merci beaucoup d'être venu nous en parler et merci aux équipes de France Bleu Occitanie qui nous ont permis ce duplex depuis Toulouse.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Thomas Fetterman, vous êtes donc le chanteur de ce groupe La Caravane Passe et vous venez nous parler d'un titre que vous avez sorti en décembre dernier avec le groupe Trio qui s'intitule Droit comme un arbre. Donc il y a battle de titres sur les arbres cet après-midi. Il a évidemment une histoire particulière que vous allez nous raconter dans un instant, mais en voici tout de suite un extrait.
Debout les aînés de la terre, fait du même bois coiffé de verre. Les arbres nous soufflent cet air. Fils de feuillu ou fille de lierre, qu'on soit tordu ou conifère, unissez-vous d'un tronc commun. Le droit des arbres et du terrien. Le droit des arbres et du terrien.
Voilà ce titre, Droit comme un arbre, dont vous allez nous raconter l'histoire, Thomas Fetterman, parce que c'est presque une mission dont vous a chargé, on le disait tout à l'heure, votre oncle Georges Fetterman, qui est président de cette association Arbre Remarquable.
C'est ça, l'association Arbre au pluriel, effectivement qui s'occupe de donner un diplôme à certains arbres, ou du moins un diplôme de reconnaissance pour qu'on
les respecte et qu'on les protège.
Pour qu'on prête plus d'attention effectivement à ces arbres remarquables. Et donc mon oncle, avec cette association, a donc proclamé symboliquement dans un colloque de l'Assemblée nationale la Déclaration des droits de l'arbre, qui est une déclaration en 5 points, très simple, humaniste, un petit rappel pour tout le monde, effectivement, de ce qu'est un arbre, un grand vivant statique qui a besoin autant de place sous terre, sur terre et dans l'air, etc. Voilà, c'est vraiment des choses très simples comme ça à rappeler qui sont essentielles. Et malheureusement, c'était avant le Covid, et puis est passé le Covid là-dessus, donc tout ça est un petit peu passé aux oubliettes. Et puis,
donc la déclaration, on l'a un peu oubliée, c'est ça?
Voilà, on l'a un petit peu oubliée, ils auraient bien aimé réveiller des consciences, notamment d'élus, voilà, se faire entendre le plus possible, et puis bien sûr de la population aussi. Et donc mon arbre, j'allais dire.
Ouais, c'est beau, c'est beau, bravo.
Mon oncle, au début de l'été, me dit, j'aimerais bien que tu m'écrives un hymne, quelque chose de populaire en fait, pour soutenir cette déclaration, quelque chose de très simple. Donc je lui ai dit oui, je vais écrire, mais je pense que faire appel aux copains de Trio, ce serait une bonne idée parce que c'est vraiment leur lutte depuis le départ. Ils sont notamment à Greenpeace, etc. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses, et puis ils ont écrit l'hymne de nos campagnes, etc. Et puis il me dit, oui, mais quand même, avec la caravane passe. Donc voilà, il a tenu à ce qu'on soit là. Et puis finalement, Trio a été très content de collaborer avec nous sur cette chanson. Et puis voilà, l'arbre, comme dit la chanson. Quoi.
Et donc c'est sorti en mois de décembre dernier pour remettre en lumière, au fond, cette déclaration autour des droits des arbres. Camille.
Parce qu'il faut rappeler quand même, Thomas Fetterman, que l'arbre aujourd'hui, dans le Code civil, il est considéré comme un objet. Il n'a pas de statut, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mobilisations qu'on relaye assez régulièrement, notamment de gens qui s'opposent à ce qu'on détruise des arbres pour construire un parking, qu'on rase des arbres, etc. Aujourd'hui, il n'a pas de statut. Donc qu'est-ce que que demande cette déclaration du droit des arbres?
En fait, elle, c'est pas une demande, c'est vraiment une prise de conscience. C'est-à-dire que il y a 5 points, comme je le disais. Le premier point, c'est de rappeler que ça n'est pas un objet, effectivement, mais c'est un vivant, un grand vivant statique. On dit statique, même si on a appris tout à l'heure qu'il se déplace quand même, tout doucement. Ensuite, il y a l'idée de respecter sa longévité, etc. Voilà, c'est vraiment un rappel simple pour dire c'est un être vivant. Ouais. Qu'il faut respecter.
Marc-André Sellos, est-ce que ça vous semble important, cette déclaration du droit des arbres? Est-ce que ça peut faire avancer la cause, justement, de ce végétal?
Il faut que la cause du végétal, en général, et du vivant non humain avance. Et donc, une des façons, c'est de les détacher de l'état inerte. Et en ce sens, c'est extrêmement vertueux. Après, il faudra quand même un jour aussi qu'en parallèle de ça, ou en plus, on commence à voir les choses en elles-mêmes. Et pas simplement en leur donnant des traits humains, ce qui est une des façons de les révéler. Mais qu'on commence à comprendre la plante comme une plante, la bactérie comme une bactérie, et vraiment aller voir ce qu'il y a au fond pour en faire des outils et éviter les mauvais coups.
Ouais, Michel Sédoux.
Oui, c'est indispensable. Je pense que faut les respecter, les admirer. On veut trop les cultiver. C'est-à-dire qu'il faut leur laisser leur espace naturel. Et c'est très important pour nous. C'est cet espace naturel qui nous protège. Et donc, c'est des grands, grands protecteurs de l'humanité.
Alors, l'idée, c'était d'écrire au nom de l'arbre, hein, quand même. Ça, c'était votre projet. Et c'était toute la difficulté, d'ailleurs, de la chanson, hein, quasiment, Thomas Fetterman. Hein.
Exactement. C'est-à-dire qu'entre le moment où mon oncle m'a demandé ça et le moment où je me suis trouvé devant une feuille et puis avec un instrument de musique pour composer, je me suis rendu compte que c'était extrêmement complexe d'écrire sur un arbre sans écrire quelque chose de cucu.
la praline.
Voilà, pour dire les choses. J'avais vraiment pas... Moi, j'ai l'habitude toujours de trouver un angle de tir, quoi, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais pas non plus envie d'écrire sur les pollueurs parce que j'aime pas trop les chansons qui donnent des leçons. Enfin, en tout cas, je me sens pas à l'aise dans cet exercice. J'ai des amis qui le font très bien. Moi, c'est pas mon truc. Mmh. Et puis, j'étais bloqué comme ça longtemps. Et c'est finalement Georges Brassens qui m'a débloqué. Ouais, parce que j'étais bloqué. Et puis, j'ai relu des textes de Brassens parce que je trouve qu'il arrive toujours à avoir ce détachement pour parler des choses. Et puis, je trouve que la poésie vient mieux servir certains combats. Mmh. Et puis, j'ai passé une nuit à lire des textes de Georges Brassens. Et puis, j'ai jeté tout ce que j'avais fait avant, et puis j'ai réécrit cette chanson qui ne parle que du point de vue de l'arbre, qui fait, en gros, sa propre révolution. Et donc, le texte est fait avec des slogans révolutionnaires détournés. Ça commence avec « Debout les aînés de la terre » au lieu de « Debout les damnés de la terre », etc.
Mais il y a plein de chanteurs qui ont chanté les arbres. Hein. Quand on fait la liste, finalement, il y en a eu pas mal. Hein.
Oui, il y en a beaucoup. Ouais.
Mais de toute façon, l'arbre à la côte, là, l'émission en est une illustration, et il y a plein d'autres ouvrages, d'autres œuvres qui ont lieu. Michel Sédoux, l'arbre, vous trouvez ça inspirant comme là en l'occurrence comme objet de cinéma, mais ça aurait pu être autre chose.
C'est extraordinaire. On a passé 2 ans autour de lui, mais c'est un ami maintenant. C'est du vrai vivant. C'est pas un vivant factice. Le végétal, c'est du vivant. Donc, il y a des émotions, il y a des moments, il y a des odeurs, il y a des échanges avec un arbre.
Mais je vous pose la question parce qu'on pourrait presque, je mets plein de guillemets à presque, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les auditeurs, se dire encore un truc sur les arbres, quoi. Parce qu'on a l'impression depuis 3, 4, 5 ans qu'il n'y a que ça.
Mais oui, c'est pas, on n'a pas voulu le montrer sur encore un truc sur les arbres. On a voulu montrer, tout simplement, on l'a traité comme quelqu'un qui avait son vivant et son environnement. C'est découvrir son écosystème, découvrir l'interdépendance de toutes ces espèces qui était très intéressant. Et surtout, de le mettre en valeur. De lui donner la place qu'il doit avoir.
Et puis donc cette chanson « Droit comme un arbre », on va écouter Tonton Fetterman, tiens, quand il part au combat justement pour défendre ses arbres, parce que ça déménage toujours.
Georges Fetterman.
Il a vraiment la carrure.
Je viens d'apprendre qu'il doit y avoir l'abattage de 127 platanes sur la commune d'Aiguive, je crois que c'est dans le Var, pour des raisons de sécurité routière, faisant fi de la protection des oiseaux qui vivent à l'intérieur. Il faut que ça s'arrête, qu'on réfléchisse avant d'abattre des arbres comme cela. En tout cas, une règle simple, ici on représente l'association Arbre, laissons les arbres tranquilles. Maintenant on est dans une situation où l'avenir c'est celui-là, c'est de laisser vivre les arbres et jouer leur rôle écologique, climatique, biologique.
Voilà, Thomas Fetterman, les repas de famille avec Georges Fetterman, on parle que d'arbres ou il y a d'autres sujets possibles?
Non, on parle de beaucoup de choses, on parle d'environnement, mais d'environnement politique aussi beaucoup. Depuis que je suis enfant, c'est une famille très politisée.
Ouais.
Mais surtout, c'est vrai que mon oncle nous a toujours emmenés, moi les souvenirs, c'est les promenades en forêt, les promenades partout. Il était professeur de biologie au collège aussi, je l'ai eu et
j'étais
j'ai eu en quatrième et j'étais marqué parce que le jour de la rentrée,
Il fait prendre vite fait les noms et puis il dit allez, on était dans le 12e arrondissement, il dit allez maintenant, on va tous dehors, je vais vous montrer la nature. Et puis on est allé sur la petite ceinture, il a montré ce qu'il y avait comme nature à Paris, etc. Et voilà, il avait ce truc-là un petit peu atypique qui motive beaucoup de gens et c'est vrai que c'est une inspiration pour nous tous, pour bouger simplement.
Et ça vous arrive de participer à des manifestations, des mobilisations, justement là on entendait pour s'opposer à l'abattage de 100 et quelques platanes?
Alors moi personnellement non.
Ça vous donne pas envie?
Alors ça me donne envie bien sûr, mais moi mon engagement il est dans la musique. Alors quand je dis ça, ça veut dire que ça me prend tout mon temps en fait simplement. Et donc je suis content de pouvoir utiliser mes outils musicaux pour pouvoir soutenir certaines choses. Mais honnêtement, j'ai pas le temps.
Mais vous pourriez la chanter sur scène ou pas cette chanson?
Oui, on pourrait. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que Gizmo, donc qui chante avec moi sur cette chanson, Gizmo de Trio, m'a dit qu'ils réfléchissent peut-être à l'intégrer eux aussi dans leur dans le répertoire, qu'ils aimeraient bien la chanter sur scène. Et puis, j'espère que la chanson va vivre le plus longtemps possible.
Marc-André Sellos, dans votre livre des chroniques de la Terre au Carré, paru chez Actes Sud, vous rappelez que l'arbre est un colosse au pied d'argile. Pourquoi? Alors, ce magnifique chêne dont on parlait tout à l'heure avec Michel Sédoux, qui fait 11 mètres de haut, plus de 11 mètres de haut, qui a plus de 200 ans. Pourquoi c'est un colosse au pied d'argile, alors?
Déjà, c'est le survivant de tout un tas de pareils par centaines qui sont morts entre-temps. Mais aujourd'hui, dans un temps de changement climatique et où des maladies s'introduisent, pensez au frêne qui en maintenant détruit en France et en Europe par une maladie introduite d'Asie, avec l'arrivée de nouvelles maladies et le changement climatique, le rythme de génération il est lent. Ouais. Et l'apparition des adaptations qui se fait au rythme des générations est lente. Donc il y a un défi d'adaptation rapide aux nouvelles maladies et au climat. Et là, effectivement, le chêne il est un peu lent, l'arbre est un peu lent.
Je crois que c'est plus de 100 ans. Vous avez dit tout à l'heure, Michel Sédoux, qu'il était né en 1910, cet arbre.
1810. Et juste quelque chose d'important. Ouais. Un arbre comme celui-ci, il boit 200 litres d'eau par jour. Ouais. Donc vous vous rendez compte que s'il y a un assèchement climatique, là, c'est un vrai problème de survie.
Allez, pour partir en week-end et voir sur la route des vacances, on réécoute un extrait, c'est le refrain de « Droit comme un arbre ». Voilà, il n'y a pas d'argent, c'est ce que vous dites hein, justement, Thomas Fetterman qui est pris sur ce titre. Tout est reversé à l'association Arbre.
Tout est reversé, oui, en effet. Ouais.
La caravane passe ou partant en tournée bientôt, on peut peut-être l'annoncer au public.
Ça y est, on a le droit de rejouer, ouais. On ne jouait plus depuis le 12 décembre. Donc on sera jeudi prochain à Angers, et puis il y a beaucoup beaucoup de dates un petit peu tout le temps. Et puis il y a un nouveau titre, un nouveau clip qui va sortir qui s'appelle Maria Kalash et qui sera sur le droit des femmes, celui-là.
Très bien, et donc toute la tournée disponible sur le site de la Caravane Pass. Vous ferez une date à Paris le 1er juin au Trabendo.
Et une date dans le Cantal le 14 mai à Saint-Flour. Voilà.
Ça c'est pour votre famille.
Non, c'est juste pour qu'il n'y ait pas que Paris aussi.
Merci beaucoup en tout cas à tous d'être venus dans le Club de la Terre au Carré. On a mis toutes les références du film, des livres et des titres à télécharger sur le site de la page et la page de la Terre au Carré. C'était la rediffusion du club du 18 février dernier. Lundi prochain, nous serons dans la Drôme pour la troisième des quatre saisons de la Terre au Carré avec le printemps. Rendez-vous donc lundi.